Bonjour chers fidèles d'IDFM, c'est Didier pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte. Rendez-vous Compte, magazine culturel, social et créatif de proximité, avec cette semaine encore pour thème le genre. Un thème déjà traité il y a 15 jours, à réécouter en podcast sur le site de la radio et réalisé avec mes amis chroniqueurs en deux mots et chroniqueuses. En deux mots également, Victoria, étudiante à la plume victorieuse, Michel, écrivaine et diaporamiste, Gérard, chroniqueur inspiré par son chat Moritz, Marine, artiste freelance qui croque également tous nos invités, et même une psychanalyste, Hélène, qui aime boire du Pepsi et dire des inepties, rendez-vous compte. Eh oui, à force d'agrandir avec bonheur, bien entendu, notre cercle de chroniqueurs et de chroniqueuses, en deux mots, les 30 minutes d'une émission ne suffisent plus pour que chacun ait la possibilité de traiter le thème choisi chaque mois entre nous, selon son point de vue personnel. C'est pourquoi je vais faire équipe aujourd'hui avec un autre membre de notre cercle, Nicolas Martin, peintre et critique d'art, qui nous propose, comme chaque mois, une entrée sur le thème à travers l'analyse incroyablement pertinente d'un ou deux tableaux figurant dans l'une des grandes expositions en cours à Paris, en l'occurrence, celle qui, jusqu'au 25 janvier 2026, au musée Jacquemart-André, met à l'honneur le peintre Georges de la Tour, célèbre pour ses scènes intimistes et ses clairs-obscurs d'une grande intensité. Alors, comment Nicolas va-t-il traiter le thème du genre dans deux des chefs-d'œuvre de l'artiste? Eh bien, on écoute ensemble sa chronique Argument.
Bon. Aujourd'hui, dans Argument, on va parler de genre. Pas le genre musical, pas le genre littéraire, le genre. Celui qui colle au corps, qui distribue les rôles, qui dit « Toi tu portes un pantalon, toi tu portes une robe, toi tu gagnes, moi je séduis, toi tu subis. » Et pour ça, direction le XVIIe siècle, avec Georges de la Tour. Oui, ce peintre lorrain qui adorait les bougies, les visages impassibles et les ambiances qui sentent sacrément le silence et le secret. Mais ne vous laissez surtout pas endormir par le clair-obscur, car derrière ces toiles hiératiques, de la Tour fait quelque chose d'unique. Il met en scène le genre comme un jeu, et cela littéralement. Comme quoi Netflix n'a rien inventé, et si son jeu de la dame est bien troussé, d'autres avant elle ont joué et gagné. Regardons par exemple son tableau qu'il nomme « La diseuse de Bonaventure ». La scène est claire, au centre, un jeune homme, costume soigné, chemise rose, par-dessus marron ceinturé de rouge, pantalon assorti, petit chapeau noir, cheveux mi-longs, bien coiffés. C'est le portrait type du fils de bonne famille, mais qui a mis les pieds dans un monde qui n'est pas le sien. Il tend sa main gauche vers une femme, la fameuse diseuse, en attendant qu'elle lui dévoile son destin contre une pièce. Un rituel fascinant et un motif caravagesque qui nous rappelle l'obsession de cette époque pour la divination, les sciences occultes et les superstitions. Pendant ce temps, détail croustillant, l'une des femmes coupe discrètement la chaîne en or qui pend à sa taille. Une autre tire sa bourse. Il se fait plumer. Et c'est ça qui est brillant. Tout est sous nos yeux, mais le jeune homme ne voit rien. Un peu comme les petites lignes d'un contrat d'assurance qui sont bien là, et qu'on ne lit pas. Historiquement, les gitanes étaient associées à la marginalité, au danger, à la ruse. C'est un cliché d'époque, mais ici, le cliché se retourne. Le mâle, blanc, riche et bien-né, devient la proie. Ce sont les femmes, figures périphériques, qui mènent la danse. Une inversion de genre et de classe en même temps. Deuxième tableau pour illustrer le propos. Le tricheur à l'as de carreau. Quatre personnages sont autour d'une table. Le jeune noble, au premier plan à droite, porte un pourpoint de soie claire, une plume extravagante à son chapeau. Il s'est fait beau et est habillé pour être vu. Bref, c'est pas le casual day du vendredi. À sa droite, une femme aux joues rosées qui détourne son attention avec un regard mi-ironique, mi-complice. Derrière, une autre femme, au corsage audacieusement décolleté, tient la coupe de vin, détail qui compte, car dans l'imaginaire du XVIIe siècle, le vin, c'est le trouble des sens, le relâchement moral. Et enfin, à gauche de cette tablée, le fameux tricheur. Regardez sa main. l'as de carreau serré contre sa hanche, à moitié dissimulé par son large ceinturon. Un geste presque théâtral, comme un acteur qui attend son moment d'entrer en scène et qui crée du coup une complicité avec nous, spectateurs. D'un point de vue historique, les jeux de cartes étaient très surveillés, interdits à certains endroits, tolérés ailleurs, mais toujours perçus comme des lieux de perdition. La tour ne peint donc pas seulement une scène de taverne, il peint la tentation, la ruse, la comédie sociale, où chacun joue un rôle. Et c'est là que précisément ça devient passionnant pour nous. Dans ces deux toiles, le genre n'est pas une essence, c'est une performance. Dans la diseuse, les femmes jouent les voyantes, les voleuses, les rusées, et ça marche. L'homme joue au noble, et retour de karma, il se fait avoir. Dans le tricheur, chacun est assigné. Le pigeon, naïf, le tricheur malin, les femmes séductrices. Mais ce sont des costumes, des postures sociales. On pourrait distribuer les rôles autrement. Rien n'empêcherait l'aristocrate d'être le tricheur ou la femme de se faire rouler. Comme des cartes qu'on rebattrait. En bref, de la tour sous ses chandelles mystérieuses nous dit quelque chose de très moderne. Que le genre, c'est finalement comme une partie de cartes. Ce ne sont pas les règles établies de la nature qui font la loi. Ce sont des rôles distribués, joués, répétés et parfois bousculés qui animent les relations humaines. Alors oui, on croyait voir venir des scènes de taverne, un peu d'exotisme et des tissus chatoyants, mais en réalité, Georges de la Tour nous donne une leçon d'actualité. Les genres se jouent, se déjouent et surtout, ils se renversent. Et ça, pourtant sans la lueur d'une seule bougie, ça reste lumineux. À bientôt dans Argument.
Merci Nicolas pour cette analyse lumineuse, évidemment, de ces deux tableaux proposés publics avec bien d'autres dans cette rétrospective unique en France depuis 1997, dédiée à Georges de la Tour jusqu'au 25 janvier 2026 au musée Jacquemart-André, à voir et à consommer sans modération, bien entendu.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Nicolas, tu terminais ta chronique en évoquant ces chandelles mystérieuses qui illuminent l'œuvre de Georges de la Tour. Elles illuminent également les meilleurs souvenirs de Christophe Maé, qui allume des bougies, histoire que ça dure, une très belle chanson extraite de son album « C'est drôle la vie », paru en 2023, dédicace spéciale à Marina.
Je me revois par la fenêtre, sur les genoux de mamie. Je me revois sur le port de Sète avec ma petite amie. On souriait aux anges sous la pluie sans se soucier de la nuit. Mais elles partent vite, les chéries, comme s'en vont les mamies. C'est fragile et on n'est rien ici, rien ici, rien ici. C'est fragile, mais on est bien ici, oui, bien ici, bien ici. Alors moi, j'allume des bougies, histoire que ça dure. Moi, j'allume des bougies, oui, moi, j'allume des bougies, histoire que ça dure. J'allume des bougies.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce deuxième rendez-vous compte consacré au thème du genre. Un thème que notre chroniqueur Nicolas Martin, peintre et critique artistique, nous a proposé à partir de deux tableaux de Georges de la Tour. Nicolas nous expliquait que la tour, sous ses chandelles mystérieuses, nous dit quelque chose de très moderne, que le genre c'est finalement comme une partie de cartes. Ce ne sont pas les règles établies de la nature qui font la loi, ce sont des rôles distribués, joués, répétés et parfois bousculés qui animent les relations humaines. Et Nicolas ajoutait: les genres se jouent, se déjouent et surtout, ils se renversent.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Les genres se jouent, se déjouent et surtout, ils se renversent. Eh bien, c'est exactement ce qui se met en scène dans le roman intitulé « Arcadie » d'Emmanuel Bayamak Tam, prix du livre Inter en 2019. le roman transgenre de la rentrée, résumé à l'époque par Jérôme Garcin et Patricia Martin lors de l'émission Le Masque et la Plume du 17 octobre 2018.
Alors, encore un gros roman, 450 pages,
qui nous a gâtés,
qui est en lice non seulement pour le prix de Flore, mais aussi pour le prix Fémina. C'est le bien nommé Arcadie d'Emmanuel Bayamac-Tam chez POL, le seul vrai roman transgenre de cette rentrée littéraire dans une communauté verdoyante, végétarienne, libertaire. Ça se passe entre la France et l'Italie, où sa mère électrosensible, son père à moitié demeuré, sick, hein, et sa grand-mère LGBT ont trouvé refuge. Une jeune fille de 14 ans, Farah, s'étonne d'être dotée d'attributs masculins et d'être moustachue. Elle se lance alors dans une grande enquête et se demande, question évidemment très à la mode...
Elle n'est pas tout de suite moustachue. Hein. Non, mais d'abord, elle s'aperçoit qu'elle n'est
si
pas...
Si tu ne me permets pas de résumer, je peux prendre aussi une demi-heure, si tu veux. Elle se demande donc ce qu'est être une femme, ce qu'est Patricia... être un homme.
C'est pas facile de répondre à
ce
cette
qui
question.
De toute façon, je t'ai pas posé la question. Ce qui ne l'empêche pas de vivre une histoire d'amour avec Arcadie, le chef chaman de ce phalanstère. Il faut dire, j'ai oublié qu'il s'appelle Liberty House. Et il est question de, évidemment, de tous les sujets qui agitent notre société, le spécisme, le véganisme, le naturisme, le réchauffement climatique, la sexualité des vieux.
Il n'y
a pas de,
il n'y a pas
de 4x4, hein. Et même les migrants avec l'apparition d'un bel érythréen que Farah appelle vendredi. C'est donc une fable, une longue fable, à la fois très sérieuse par moments, très drôle à d'autres moments.
C'est très drôle, c'est absolument déconcertant.
Comme nous l'a rappelé Nicolas dans son analyse des deux tableaux de Georges de la Tour, le genre peut être le lieu d'un jeu de rôle où les identités et les rapports de pouvoir peuvent être inversés ou bousculés par les marginaux de l'ordre social. Ainsi, les rôles seraient donc des costumes interchangeables. La Tour montre aussi que le genre n'est pas une essence naturelle, mais une performance sociale, une partie de carte, où les règles peuvent être distribuées et renversées, y compris dans les communautés qui se pensent idéalement tolérantes à toutes les nuances d'origine et d'orientation. La jeune héroïne d'Arcadie, le roman d'Emmanuel Bayamac-Tam, apprend non seulement la part trouble de son identité et de sa sexualité, mais également, à l'occasion d'une rencontre avec un migrant, la lâcheté, la trahison du groupe. Arcadie et les membres de son phalanstère, tolérants envers eux-mêmes, ont beau prêcher l'amour universel, ils referment les portes du paradis au nez des migrants. Oh, pour Farah, c'est inadmissible. Selon la présentation du roman chez son éditeur, POL, sa jeunesse intransigeante met à l'épreuve les beaux principes de sa communauté, mais aussi nos peurs et nos illusions sur l'amour, le genre et le sexe. Arcadie, un roman à lire autant pour ses personnages atypiques et complètement déglingués, avouons-le, que pour l'écriture stupéfiante d'inventivité, d'humour et de maîtrise de l'auteur Emmanuel Bayamac-Tam.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Farah, l'adolescente d'Arcadie, découvre que son corps lui échappe et se transforme irrémédiablement en celui d'un homme, en dehors de sa volonté, mais sans subir pour autant la stigmatisation du groupe. Tout le contraire pour la jeune transgenre mise en scène dans un court-métrage datant de 2018 intitulé Dysphoria, un court-métrage réalisé par Anna Epting, âgée alors de 17 ans. Son héroïne, du même âge visiblement qu'elle, se sent fille dans son corps masculin de naissance et elle va subir le rejet et la violence de sa famille et de l'extérieur. Lors d'un repas de famille, sa sœur l'insulte et ses parents intiment à leur aînée de ne plus leur infliger la transition à laquelle elle est décidée et qu'elle assume malgré les épreuves. Et puis, lors d'une soirée, elle se fait traiter de, je cite, « travelot » par un garçon trompé par son apparence. Le noir à l'écran et les sirènes d'ambulance en bruit de fond nous font comprendre le geste radical accompli par celle qui veut à tout prix être considérée comme une jeune fille dans une mise en scène qui n'est pas sans rappeler la fameuse scène de la douche de Psychose.
Arrête avec tes manières de folle! Tu m'insupportes! Porte tes couilles un peu! Non mais t'as vu dans quel état tu mets ta sœur?
Regarde comment tu t'habilles! On ne comprend plus. On ne comprend plus. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça?
Ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête maintenant.
Putain, mais ça trave l'eau.
Avec un sens de la narration, de l'image et du son digne d'un scalpel, Anna, la jeune réalisatrice, a signé avec Dysphoria son œuvre de fin d'études pour l'option cinéma audiovisuel du lycée Jean Monnet de Franconville. Présentée lors de la projection de l'ensemble des films réalisés par les élèves de cette option, au cinéma L'Étoile de Saint-Gratien, à laquelle j'étais présent, Dysphoria a obtenu le prix du jury et celui des spectateurs. Récompense incontestablement méritée qui m'ont d'autant fait plaisir que j'avais eu Anna comme élève quelques années auparavant au collège Louis-Augustin Bosque de Saint-Prix où elle manifestait déjà un incroyable talent littéraire comme cinématographique. Alors je vous incite absolument à visionner Dysphoria sur YouTube, tapez Dysphoria avec un Y, fiction Bac 2018, réalisation Anna Epting. Pour visionner comment se termine cette épreuve pour la jeune transgenre aux prises avec la transphobie. Anna termine sa vidéo par la version instrumentale du tube qui en 2014 a fait décoller la carrière de Christine and the Queen, une composition intitulée Saint-Claude. On écoute cet extrait de Saint-Claude qui résonne à la fin du court-métrage Dysphoria comme une note d'optimisme et de renaissance pour la jeune héroïne. Loin d'être toujours un jeu de rôle maîtrisé pour inverser un instant les rapports de domination, comme l'a analysé Nicolas Martin à propos des deux tableaux de Georges de Latour, le face-à-face entre sa personnalité réelle quand elle est en désaccord avec son corps de naissance et son dévoilement au monde occasionne la plupart du temps de profondes blessures. Tenez, en août 2022, Christine and the Queen, sur ses réseaux sociaux, dévoile sa transidentité et annonce qu'il se genre désormais au masculin depuis un an. Depuis, le chanteur est la cible de nombreuses critiques transphobes et il estime que ses chansons suscitent beaucoup moins l'engouement des médias depuis son coming out.
Et vous m'appelez elle, en fait, à toutes les 5 minutes et ça me blesse, en fait. Ça me blesse, en fait. En vrai, il y a un truc qui me frappe quand même. C'est tous les gens qui continuent à m'appeler elle. Ça me frappe. C'est juste un manque de respect. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. Une façon aussi de ne pas récompenser un travail d'honnêteté qui est horrible à faire en société. Une certaine paresse aussi, un certain mépris pour mon travail récent. Je suis un humain en société qui cherche à trouver sa vérité, qui s'est jamais sentie femme depuis qu'il est né, qui en a parlé dès son premier album dans ses chansons, et cette société, en fait, tout en étant très transmédiatisée, elle est transphobe. Vous voyez ce que je veux dire? On est mis en avant avec des gros titres bien gras, ce qui m'est arrivé dès que j'étais jeune et que j'ai parlé de pansexualité, puis en fait, en vrai, on fait ça pour pas parler de notre travail, pour pas parler du propos. Allez écouter ma musique si vous pensez vraiment que je me réfugie dans des colères inutiles. Ma vie entière est bien plus vaste que ça, mais ma socialisation, elle est difficile parce que vous m'appelez elle, en fait, à toutes les 5 minutes et ça me blesse, en fait. Ça me blesse, en fait.
IDFM, 98FM.
Si pour la jeune héroïne de Dysphoria, mais aussi pour Anna Epting, devenue Sam, et pour Christine and the Queen, la transition de genre suscite doute, souffrance et errance du fait du regard des autres, d'autres proclament devant le monde entier leur identité réelle, quitte à affronter la colère des uns, l'incompréhension des autres, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes. Tenez, Vivian Jenna Wilson, l'aînée des 14 enfants supposés d'Elon Musk, née garçon pour l'état civil, a fait son coming out sur Instagram en tant que femme transgenre à l'âge de 16 ans, entamant une transition médicale vitale selon elle pour le bien-être des personnes transgenres et qui, affirme-t-elle, lui a sauvé la vie. On écoute sa prise de parole en anglais, évidemment.
So, I transitioned at the age of 16 medically, and it basically saved my life. I don't think people understand, with all the demonization that has happened to trans minors, that it is really life-saving care and that we should not be rolling back this care for some of for trans youth in this country who desperately need it. Diva. I refuse to cry. It's gonna mess up my makeup, and they did such a good job.
And they did such a good job. Right.
Après son coming out fortement médiatisé, son célèbre père, Elon Musk, à qui elle ne parle plus, est devenu obsédé par la question transgenre. Évoquant la transition de sa fille, il qualifie ses traitements médicaux de, entre guillemets, stérilisation. Et pleinement engagé dans la campagne présidentielle de Donald Trump de 2024, il avait sévèrement critiqué ses choix, estimant que son fils, entre guillemets, avait été tué par le, toujours entre guillemets, virus de la culture woke. Viviane a légalement changé de nom en 2022, prenant celui de sa mère, et a coupé tout lien avec son père, dénonçant son absence de soutien et ses propos transphobes. Transition de genre, nous l'avons vu, est souvent synonyme de conflit intérieur et relationnel. Mise en scène dans des tonalités tragiques, pathétiques, le thème peut être traité également sous l'angle de la comédie. C'est par exemple le cas de « Un homme heureux », un film de Tristan Seguela avec Fabrice Lucchini, Catherine Fraud et Philippe Catherine, sorti en 2023 sur les écrans. Petit résumé, alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 40 ans, lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus taire. Au plus profond de son être, elle est, et a toujours été, un homme. Jean pense d'abord à une plaisanterie, mais réalise rapidement qu'Edith, qui veut se faire appeler Eddie, est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu'au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risque d'être sacrément chamboulée. Bonne annonce du film. La scène se passe lors d'un déjeuner du couple au restaurant.
Quand je pense que le fils de ma sœur veut prendre ma mairie. Non mais pourquoi faire, je te le demande. Pour nous obliger à rouler en trottinette électrique. C'est épouvantable, je t'assure. Je t'ennuie ?
J'ai quelque chose à te dire, Jean. Quelque chose de très important. Il est temps que j'assume mes désirs profonds.
T'as rencontré quelqu'un ? Edith, quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça. Je me trompe ?
Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça.
C'est qui ?
Il est assis en face de toi. Je suis un homme. Et je l'ai toujours été.
C'est une blague.
Non, je suis très sérieux.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Comme au cinéma ou dans la chanson, le thème du changement de genre est parfois aussi mis en scène au théâtre. Exemple célèbre, la pièce d'Eugène Ionesco, Rhinocéros. Mais cette fois, il s'agit d'un changement d'une autre nature. Le passage d'un genre sexué à l'autre est remplacé dans la pièce par un passage d'une espèce à l'autre. Rendez-vous compte. Résumé, dans une petite ville, les habitants sont soudainement frappés par un phénomène étrange. Ils se transforment progressivement, devinez, en rhinocéros. Au début, cette métamorphose surprend et amuse, mais elle devient vite inquiétante alors que la majorité de la population succombe à cette épidémie.
Oh mon Dieu, encore un. Il y a tout un troupeau maintenant dans la rue. Une armée de rhinocéros. Par où sortir ? Par où sortir ? Sur les trottoirs. Par où sortir? Par où partir? Il y a tout un troupeau de rhinocéros. Ils ont tout démoli. Rhinocéros. Rhinocéros.
Personnages d'abord sceptiques finissent par céder à la pression sociale, à l'exception de Béranger, un homme ordinaire, maladroit et souvent indécis, mais au fil de la pièce, Béranger assiste impuissant à la transformation de ses proches. Il tente de résister à la vague de conformisme et à la tentation de rejoindre le troupeau. Et dans la scène finale, Béranger se retrouve seul, dernier humain, dans un monde peuplé de rhinocéros. Alors, malgré la solitude et le désespoir, il refuse de renoncer à son humanité et s'écrie « Je ne capitule pas, je ne capitulerai jamais ». La pièce se termine donc sur la résistance individuelle face à la déshumanisation collective, soulignant la difficulté mais aussi la nécessité de rester fidèle à soi-même, même contre tous. Message qui pourrait servir de conclusion à cette seconde émission sur le thème du genre biologique, ressenti et revendiqué, quel qu'il soit, rendez-vous compte. J'aimerais terminer en évoquant ce genre dont on parle rarement et qui n'entre, paraît-il, dans aucune classification scientifique établie. La mythologie grecque, là encore, nous raconte une bien belle histoire. Hermaphrodite est né des amours d'Hermès, messager des dieux, et d'Aphrodite, déesse de la beauté. Il naît en tant que garçon et son nom est l'union du nom de ses deux parents, Hermès et Aphrodite. L'enfant hérite à sa naissance de la beauté. Un jour qu'il se baigne dans un lac, habité par une naïade, celle-ci s'éprend du bel adolescent, bien qu'il repousse ses avances. Mais la nymphe profite d'une baignade pour l'entraîner au fond de l'eau et supplie les dieux de ne plus les séparer. Son vœu est exaucé. Ils furent ainsi unis dans un même corps, à la fois homme et femme.
Un mot encore. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi ce jeu ? Les temps sont venus pour les fusions neigeuses, les corps de brume, les sagesses de pauvres, les rencontres d'hermaphrodites et d'ordinateurs sur les tables fraîches des grands restaurants en été. Dans les capitales vides.
Ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré pour la deuxième fois au thème du genre. Un podcast à retrouver sur le site d'IDFM, bien sûr. Merci Nicolas, Nicolas Martin, pour ta remarquable chronique Les tableaux de Georges de Latour. Merci également à Anna, à Sam, pour ton court-métrage Dysphoria, je ne cesse de regarder depuis quelque temps. Et quant à moi, Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte, sur IDFM évidemment. Et en attendant, je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de midi pour ma chronique Nec plus Ultra consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.